Alors, si vous voulez prendre le livre des Actes, chapitre 13, et nous allons lire ensemble les versets 14 à 52. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert, et, ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. » Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qu'il est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle de la promesse, que la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu et mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, et ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Donc, dans notre texte, ici ce matin, on a une prédication de l'apôtre Paul à l'attention donc des Juifs de la synagogue d'Antioche de Pisidie. D'abord, juste pour introduction, c'est intéressant de voir l'articulation de la prédication de l'apôtre. Comment s'y prend-il pour parler à son peuple, aux Juifs ? On voit que souvent, la prédication qui est faite aux Juifs, elle part sur une description des faits historiques de l'Ancien Testament. Et c'est ce qu'il fait ici, versets 16-17. « Hommes israélites, vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple a choisi nos pères. Il a mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Il l'en fit sortir par son bras puissant. » Donc, l'introduction de sa prédication prend racine, finalement, dans tout ce que les Juifs connaissaient, toute l'histoire d'Israël. Voilà, on est attentif, on va l'écouter. Cet homme sait de quoi il parle. Hein. Il est en train de nous expliquer, bien comme il faut, l'histoire, notre histoire. Puis au verset 23, Paul entame sa transition. Verset 23, « C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. » Et là, il entre dans les vérités développées dans le Nouveau Testament. Et puis, il va parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, prophète, hein, reconnu encore en son temps par les Juifs comme prophète, hein, qui annonçait la personne de Jésus. Et puis, il va parler ouvertement de la méconnaissance des Juifs de Jérusalem par rapport à la personne de Jésus-Christ. Alors que pourtant, le Fils de Dieu était déjà présenté dans l'Ancien Testament. Et il appuie cela avec des textes. Il cite par exemple le psaume 2, verset 33. « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Regardez, l'Ancien Testament disait déjà que Dieu avait un Fils. Et puis, il parle de la résurrection, verset 35. « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Regardez, Dieu avait déjà parlé de la résurrection. Et David a vu la corruption. Mais le Fils de Dieu, lui, n'a pas vu la corruption. Il est ressuscité d'entre les morts. Et une fois qu'il a démontré que Jésus de Nazareth, eh bien, vient de Dieu, qui prend racine dans l'Ancien Testament, que c'est le Messie d'Israël, versets 28 et 39, il dit « Sachez, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Et là, dans ce passage, on a l'évangile qui est condensé. Où se trouve le pardon des péchés ? Le pardon des péchés se trouve dans la personne de Jésus-Christ et Jésus seul. Qui peut être pardonné ? Quiconque. Comment ? Croire. Croire en Jésus-Christ. C'est simple. Par la foi, celui qui croit en Jésus-Christ est immédiatement justifié. Ça veut dire qu'il est rendu juste, il est pardonné, il est purifié de son péché, il a la vie éternelle. Mais tout de suite après, une fois qu'il a développé l'évangile, il dit, verset 40, on ne va pas tout lire, mais il dit « prenez garde ». Donc il les met en garde. Autrement dit, voilà, je vous expose la vérité, la parole de Dieu, l'évangile, et maintenant vous êtes responsables. Prenez garde à ce que vous allez en faire finalement. Et on peut dire que Dieu n'en fait pas moins avec nous, qui que nous soyons. Il nous présente l'évangile, il nous tend l'évangile, Jésus-Christ, son Fils, il nous l'offre, mais il tient chacun responsable après de ce qu'il a entendu. Responsable devant cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Dieu attend quelque chose de l'homme. Ça sera le sujet de ce message ce matin. Dieu attend quelque chose de l'homme. Parce que Dieu attendait quelque chose de son peuple d'Israël. Et on peut dire que Dieu attend quelque chose de chaque homme sur cette terre, qui que nous soyons. Donc j'ai donné pour titre à ce message « Ce que Dieu attend de l'homme ». Certains pensent que Dieu n'attend rien de l'homme, qu'il aurait fait, ils croient en Dieu, hein, à leur manière. Ils se disent que Dieu a fait la terre, voilà, il a fait la création et puis il s'est retiré. Et maintenant, il regarde de loin en spectateur. Il n'attend rien de l'homme. Que l'homme vive, qu'il essaye de faire de son mieux. Il n'attend rien de l'homme. Dieu attendait quelque chose d'Adam et Ève au commencement. Il attendait quelque chose de Caïn au commencement. Il attendait quelque chose des hommes du temps de Noé. Il attendait quelque chose des hommes du temps de la tour de Babel. Il attendait quelque chose des Juifs du temps de Moïse. Il attendait quelque chose des Juifs du temps de Jésus. Et il attendait quelque chose des Juifs, ici de la synagogue d'Antioche de Pisidie. Et il attend quelque chose de nous ce matin. Il attend quelque chose de chacun d'entre nous. Au début de notre texte, Paul expose ce que Dieu fait pour Israël. Au verset 17, il est écrit qu'il a choisi ce peuple. Il l'a mis en honneur, ce peuple. Il l'a élevé. Et c'est une réalité. Hein. Israël a été choisi. Israël a été mis en honneur. Au verset 18, on voit que Dieu les a nourris. Il en a pris soin. Il leur a donné une propriété, un territoire. On peut résumer ça en disant, il leur a fait du bien. Il a fait beaucoup de bien à son peuple. Comme il fait du bien à tous les hommes, d'une manière générale, hein, Dieu bénit, Dieu fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons, Dieu donne. Cette semaine, j'étais avec ma famille et il me donne l'occasion de rendre grâce à table. Donc, il ne croit pas en Jésus-Christ comme je crois en Jésus-Christ. Et il me donne l'occasion de rendre grâce. Et en pensant à ces choses, je me disais, mais que pense-t-il ? Alors que moi, je rends grâce, que j'imagine certains ne ferment même pas les yeux, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser ? Est-ce qu'ils sont en train de penser, mais attends, on l'a invité à manger, c'est nous qui avons payé le repas, on l'a payé avec l'argent qu'on a gagné hein, par notre travail. Qu'est-ce que je dois à quelqu'un, quoi, hein ? Pourquoi rendre grâce à Dieu ? Et en réfléchissant à ça, je me disais, mais finalement, tout ce qu'on a sur la table, qu'importe qu'on l'ait payé avec notre argent ou qu'il vient d'ailleurs, tout ce qu'on a sur la table, ça vient de la terre. Les plantes, les fruits, les légumes, tout vient de la terre. La viande, c'est les animaux qui ont mangé le fruit de la terre. Tout vient de la terre. Et si on mange, mais c'est parce que Dieu a donné de la terre toutes ces choses pour nourrir notre estomac. Alors oui, on a raison de rendre grâce à Dieu et de dire merci, comme Jésus-Christ a rendu grâce avant de prendre le repas. Dieu fait du bien, Dieu bénit tous les hommes. Il a béni Israël et il bénit chacun d'entre nous. Mais Dieu attend quelque chose de l'homme. Il attendait quelque chose de son peuple et il attend quelque chose de chacun de nous individuellement, personnellement. Et il y a deux grandes choses que Dieu attend de moi et que Dieu attend de vous personnellement. La première chose, c'est la foi. C'est la première chose, c'est la foi, la plus importante. Dieu attend de l'homme la foi. Il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas plaire à Dieu si on ne croit pas en lui. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Et c'est à la fois quelque chose de très facile et à la fois quelque chose de très difficile. C'est difficile parce que certains diront « mais je ne vois pas Dieu, je l'entends pas avec mes oreilles ». Et en même temps, c'est facile parce que nous avons cette faculté, cette capacité de faire confiance. Nous faisons déjà confiance dans plein de domaines. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Et Dieu qui est esprit nous a donné un esprit qui nous permet de placer notre confiance en lui. Nous savons dans notre cœur. Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et dans notre esprit, nous savons là où est la vérité. Et nous pouvons faire confiance à Dieu. Ça, c'est une vérité. Nous avons la capacité de croire dans le Dieu invisible. Dieu attend donc et cherche la foi des hommes et de l'homme. Et c'est ce qu'on voit tout au long de l'histoire, finalement. Quand vous lisez toute la Bible, vous voyez que Dieu attend la foi de l'homme. Et parfois, l'homme a répondu en ayant foi. Et puis, plein d'autres fois, l'homme a répondu par l'incrédulité, il n'a pas cru. Et quand on lit notre texte, on en voit des exemples. Hein. Regardez verset 18, je ne le relis pas, mais il nous est parlé des 40 ans dans le désert. Mais finalement, pourquoi ils ont tourné 40 ans dans le désert ? Par incrédulité, à cause de leur incrédulité. Parce qu'ils sont arrivés aux portes du pays de Canaan, ils pouvaient entrer dans le pays de Canaan, mais ils n'ont pas cru. Quand ils sont revenus, ils étaient pleins d'incrédulité, ils ont sapé même la foi du peuple. Il n'y a que Josué et Caleb qui disaient « mais non », qui avaient foi. Tous les autres ont été incrédules. Alors Dieu a rejeté cette génération. « Vous ne croyez pas en moi ?» Et vous ne pouvez pas me plaire. Regardez ensuite un autre exemple, verset 21. Ils demandèrent un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté. Mais pourquoi Dieu l'a rejeté? Parce que Saül était incrédule. Parce que Saül ne faisait pas confiance. Et son incrédulité le poussait à la désobéissance et à faire ce que Dieu ne voulait pas. Saül, finalement, ce n'était pas un homme de foi. Il était incrédule. Alors Dieu le rejeta. Verset 27 peut dire « Mais pourquoi les habitants de Jérusalem et les chefs ont méconnu Jésus ?» Parce qu'ils n'ont pas voulu croire en lui. Ils ne voulaient pas placer leur confiance dans le Fils de Dieu, le Messie, qui était devant eux. Jésus a dit « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Nécessité de faire confiance, de croire. Alors, une partie a cru, mais un grand nombre l'a rejeté. Enfin, Paul, devant ces Juifs d'Antioche, il va les exhorter. On a lu versets 28 et 39. Hein. Il va leur dire, « Quiconque croit est justifié par lui. » C'est une invitation. Il disait, « Mais croyez et vous serez justifiés. » Et certains, hein, il y a eu un écho, on le voit dans la suite, certains, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas. Hein. Mais ensuite, quand on lit le reste, on voit que beaucoup se sont opposés. Ils n'ont pas cru. Dieu cherchait la foi parmi son peuple et il ne l'a pas trouvée. Il ne la trouvait plus. Versets 45 et 46. Les juifs, voyant la foule des païens qui étaient sensibles à l'évangile, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Donc Dieu attendait la foi, mais il ne la trouvait pas. En fait, les Juifs, en entendant, parce que c'est ça, ils entendaient Dieu leur parler par la bouche de l'apôtre Paul. On ne peut pas douter de l'esprit qui était en train de parler à ces Juifs. Mais ils n'ont pas voulu croire. Ils ont refusé, ils n'ont pas fait confiance, ils n'ont pas accepté le message et Jésus-Christ crucifié. Et ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de volonté. Il ne voulait pas. Et on voit bien que Dieu insiste, et l'apôtre Paul insiste sur leur responsabilité. Regardez, au sujet de la parole de Dieu, Paul dit « Vous la repoussez ». Et il ajoute « Vous vous jugez vous-même. C'est votre responsabilité. Vous ne voulez pas. » La responsabilité n'est pas sur Dieu. Elle est sur vous. Vous rejetez le message de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ. Vous refusez de croire. En conséquence de quoi? Eh bien, Dieu se retire. Dieu bénit les hommes. Il nous bénit. Il vous bénit. Mais il attend la foi. Il veut la confiance. C'est la première chose. Il nous appelle à croire en lui. Jésus a dit, croyez en Dieu. Croyez en moi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut croire, premièrement, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit encore un dernier verset sur ce sujet, « Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. » Vous voulez avoir la vie éternelle? Vous voulez être pardonné de vos péchés? Croyez en Jésus-Christ. Dites-lui, je crois en toi. Je place ma confiance en toi. C'est essentiel. Alors, il y a une deuxième chose que Dieu attend de l'homme. Mais la première, c'est la foi. Hein? Et tant que l'on n'a pas cru en Jésus-Christ, alors, eh bien, n'envisagez pas la deuxième chose. Il faut d'abord passer par la foi. C'est très important. Si vous n'avez pas cru, alors même la deuxième chose n'est pas possible dans votre vie. Qu'on le sache, croire, c'est la première chose. Mais ensuite, Dieu nous appelle à une deuxième chose. On a vu que Saül a été rejeté. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas un homme de foi. Et Saül a été remplacé par David. Et j'aimerais qu'on regarde ce verset, verset 22. Il est écrit « Puis, l'ayant rejeté, Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et ça, ici, c'est ce que Dieu attend de l'homme après la foi. Finalement, c'est l'obéissance afin d'accomplir toutes ses volontés ou toute sa volonté. Et la foi, elle nous conduit vers l'obéissance. C'est intéressant que Dieu dise « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe ». Il ne dit pas « Je me suis formé David, fils d'Isaïe, pour qu'il accomplisse toutes mes volontés ». Non, il dit « J'ai trouvé ». Dieu cherche. Dieu cherche. Il cherche des cœurs, en fait. Il cherche des cœurs qui vont être pour lui. Et il a trouvé David. Et quand on regarde les rois d'Israël, David qui était roi, quand on regarde tous les rois d'Israël, eh bien, il y en a eu des bons et il y en a eu des mauvais. Certains ont cru, ils ont obéi, et d'autres ont été incrédules et ils ont désobéi. Et pour nous, ce matin, qui croyons en lui, si vous avez cru en lui, si vous l'avez reçu dans votre cœur, alors pour nous, l'objectif que nous devons atteindre, c'est l'obéissance parfaite. Donc la deuxième chose, c'est l'obéissance parfaite. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui accomplissions toutes ses volontés, toute sa volonté. Dieu nous révèle sa volonté. Il le fait chaque jour dans nos vies. Mais il y a un travail de sanctification qui prend du temps. Et on est tous en chemin ce matin. On avance. Et si nous avons cédé notre volonté dans certains domaines, il y a souvent d'autres domaines où nous n'accomplissons pas sa volonté, où il y a un blocage. Nous ne sommes pas prêts à faire sa volonté. Et inconsciemment, sans même que nous prononcions ces paroles, notre cœur dit « Seigneur, oui, jusqu'ici, mais pas jusque-là, Seigneur. J'irai pas jusque-là, non. Seigneur, je suis prêt à te donner tout ça, mais ça, non. Là, non. Pas cette partie de ma vie, pas cette partie de mon temps. » Donc, l'Esprit de Dieu a une partie de notre cœur, une partie de notre vie, mais il n'a pas l'intégralité de notre cœur. Qu'est-ce qui vient s'opposer aux volontés de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qui vient s'opposer aux volontés de Dieu? Il n'y a qu'une seule chose qui s'oppose à la volonté de Dieu dans notre vie. C'est notre propre volonté. C'est notre volonté. Elle s'oppose à la volonté de Dieu. Ma volonté naturelle, ma volonté d'homme charnel s'oppose sans cesse à la volonté de Dieu. Parfois, ma volonté est en accord avec Dieu. Alors là, elle est unie avec la volonté de Dieu. C'est le cas dans tous les domaines où Dieu a déjà remporté la victoire dans mon cœur et dans votre cœur. Cet aspect de votre vie, lui, acquis. Vous avez cédé, vous lui avez donné, offert. Eh bien, dans cette circonstance-là, dans cette action-là, Dieu a toute votre âme, il a tout votre cœur. Mais on peut résister aussi au Seigneur dans d'autres circonstances, dans d'autres actions, dans d'autres endroits. Notre volonté vient alors s'opposer à la volonté de Dieu. Mais ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est qu'on ne résiste plus, qu'on ne s'oppose plus à ses volontés, mais qu'on y cède et qu'on accepte. Et ce n'est pas facile. Vous le savez, comme moi, ce n'est pas facile. On s'accroche parfois fermement à certaines choses que nous ne voulons pas abandonner au Seigneur. Tout sauf ça. C'est mon jardin secret. C'est mon petit plaisir. Parfois, même sans le formuler, mais on se dit, mais finalement, il n'y a que ça que je me permets. C'est ma petite désobéissance. Ou bien, dans cet aspect, non, je refuse de faire confiance. C'est moi qui tiens les rênes, là. C'est moi qui fais les choses. Je peux mieux faire les choses que Dieu. Mais la résistance de notre volonté contre la volonté de Dieu, quand on résiste, eh bien, c'est comme si on laisse le diable avoir un pied-à-terre dans notre cœur. Il a un endroit, là, où il peut entrer dans notre âme. Par cette résistance, on laisse la porte ouverte de notre cœur. Alors, on peut aspirer à la sainteté, on peut aspirer à une vie plus proche du Seigneur, on aspire à ça, mais en même temps, on garde notre cœur ouvert au mal, on laisse le péché entrer par une entrée, une porte. Si on laisse la chair décider d'une seule chose dans notre vie, si on la nourrit dans un domaine, si on lui laisse carte blanche dans un domaine, alors, eh bien, la porte est ouverte. Et le mal peut s'infiltrer davantage dans notre cœur. Vous aimeriez, par exemple, être délivré d'un péché ou d'un certain péché, être vraiment libre, vraiment pur. Vous aimeriez fermer la porte au mal et que vraiment là, il ne puisse plus passer. Que vous soyez libre. Et tant que la porte est ouverte, l'accès est facile, la tentation est facile, la chute est facile. Vous voyez que vous êtes faible et vous cédez, et vous retombez. Et vous dites, mais ce n'est pas possible, mais comment faire? Mais il y a ce pied dans l'entrebâillement de la porte. Et alors, d'un côté, vous voulez fermer la porte, et de l'autre, il y a ce pied dans l'entrebâillement de la porte. Et si vous vous penchez, vous regardez, et vous voyez que c'est votre pied. C'est vous-même qui mettez le pied et qui vous voulez. D'un côté, vous voulez, de l'autre, vous ne voulez pas. C'est terrible, hein? Si vous vivez ça, c'est la réalité d'une vie qui n'est pas encore sanctifiée avec le Seigneur. Et ce refus de céder dans ce domaine, cette chose, cette habitude, ce petit plaisir coupable, cette indépendance du Seigneur, cette désobéissance finalement à la volonté de Dieu, ça vient nous rappeler une chose, c'est que nous ne sommes pas crucifiés avec Jésus-Christ. Et finalement, le diable n'a pas grand-chose à craindre de nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet entrebâillement qui fait que nous sommes dans un état de faiblesse. Il y a une faille, il y a une fragilité. Le moi est nourri par notre désobéissance. Et si il a la victoire dans un domaine, eh bien la menace, c'est qu'il finisse par avoir la victoire dans d'autres domaines. Et on doit être convaincu d'une chose, c'est que le péché réside dans notre cœur. La chair est mauvaise. Elle prend ses racines où ? Si vous remontez à l'origine, elle prend ses racines dans le mensonge de Satan, dans le péché de Satan. C'est là où elle prend racine, dans le conseil du diable. Tout en elle est mauvais et condamnable. Même nos plus hautes vertus sont condamnables devant Dieu. Il n'y a absolument rien de bon dans l'homme naturel. Peut-être que vous vous dites, mais quand même, il doit bien y avoir quelque chose de bon en moi. Voilà, dans la une bonté humaine, une bonté naturelle, quelque chose du genre. Mais on doit comprendre une chose, c'est que si Dieu n'a pas trouvé d'autre moyen que de prendre la créature qui le rejette pour le placer dans un lieu de feu éternel, s'il n'y a pas d'autre moyen, d'autre solution pour quelqu'un qui le rejette, c'est qu'il n'y a rien à faire. Le cœur est mauvais. Il est mauvais à l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il y a l'enfer. C'est parce que le cœur est mauvais. Sinon, il y aurait une autre solution. Mais le cœur est incurable. Il est corrompu. Dieu dit, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Ça veut dire que notre cœur, on ne le connaît pas. C'est un abîme. Il suffit d'être placé dans certaines circonstances, certains lieux, certaines situations. Et là, notre pensée nous entraîne et nous sommes dans un abîme. Nous ne nous connaissons pas. Pour ça, Dieu a dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Dieu dit, qui peut le connaître ? Pourquoi il dit ça ? Il dit, mais personne ne peut connaître son cœur. Vous ne connaissez pas votre cœur, je ne connais pas mon cœur. Il est méchant. Il est méchant. Tortueux par-dessus tout. Et c'est pour cette raison que l'homme incroyant qui refuse de croire en Jésus-Christ, alors eh bien sera jeté dans un lieu qui n'avait pas été préparé pour lui, qui a été préparé pour le diable. Mais parce qu'il a fait ce choix, dans sa responsabilité, sa liberté, alors il sera rejeté, loin de Dieu. Mais à celui qui se repent, à celui qui place sa confiance dans le Fils de Dieu, alors il y a une solution. Jésus est la solution. Quiconque croit est dans l'instant pardonné, justifié de toutes ses mauvaises œuvres, de tout son péché. Croire, être sauvé. Mais ça ne règle pas le problème de la chair dans notre cœur, du vieil homme qui est en nous. Du moins tant que nous sommes sur terre. Une fois que, si nous avons cru, une fois que nous allons entrer dans l'éternité, alors Dieu va nous libérer de ce vieil homme. Mais ici sur terre, comment faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Prenez avec moi, s'il vous plaît, Luc 9. Luc 9, versets 23 et 24. Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Et il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Il n'y en a pas d'autre. Si nous voulons être délivrés du péché, si nous voulons fermer vraiment la porte de notre cœur à toute intrusion au mal, si nous voulons être en sécurité, alors il faut qu'on renonce à nous-mêmes. Et ce verset, finalement, parle de notre volonté qui s'oppose à la volonté de Dieu. Renoncer à soi, c'est renoncer à sa volonté. Porter sa croix chaque jour, finalement, c'est renoncer chaque jour à sa volonté. Dieu nous dit qu'il n'y a pas d'autre solution que d'être crucifié avec Jésus-Christ. Notre cœur est mauvais, il est méchant, il est incurable. La seule solution, c'est qu'il soit mort sur la croix avec Jésus-Christ. Et quand je dis qu'il soit mort, c'est que les deux mains et les pieds soient cloués. Hein. Vous savez, parfois, on dit, « Seigneur, oui, je veux bien mettre une main, mais tant que j'ai l'autre libre, non. » Qu'on soit entièrement, et c'est ça. C'est là où Dieu veut nous emmener ce matin. Il veut que tous, on soit les deux mains et les pieds. Complètement. Qu'il n'y ait plus de désir propre, de volonté propre. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il est mort. Et il dit, à ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui vit. Jésus-Christ est dans sa plénitude en lui. Paul était consacré à son Sauveur. Ça doit être notre objectif. Jésus nous a sauvés pour que nous soyons des hommes et des femmes selon son cœur et que nous accomplissions toutes ses volontés. Et vous savez, ce n'est pas dominer sur nous d'une manière illégitime. Parce qu'on pourrait se dire, oh là là, quand même, hein, il demande beaucoup le Seigneur. Hein. Mais ce n'est pas dominer sur nous d'une manière illégitime. C'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution pour que nous soyons des hommes et des femmes libres et heureux dans notre vie. Pour être vraiment libre, il faut passer par la croix. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie, c'est-à-dire la conserver pour lui-même, ne pas monter en croix. Il la perdra, il va la gâcher. Il sera malheureux, il sera en lutte constante. Il n'accédera jamais au ciel sur la terre. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il va la sauver, il va la gagner, il va la retrouver. Il ne va pas être malheureux. Parce que c'est ça, hein, la chair nous dit, mais non, 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 je ne vais pas céder ça parce que je vais être malheureux. Et tant qu'elle ne cède pas, tant qu'on ne cède pas, eh ben, effectivement, on est malheureux. Et quand on cède, on se dit, mais oh, c'est le meilleur en fait. Et je ne voulais pas, c'est le meilleur. Dans notre texte, il y a au moins deux hommes qui ont accompli toutes les volontés de Dieu. Il y a David qui est tendé, hein, sans cesse. Et puis, il y a Jésus-Christ. Au début de l'Épître aux Hébreux, Dieu nous révèle que son Fils lui a dit, le Fils a dit au Père, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Dieu ne voulait pas des sacrifices d'animaux, des holocaustes, et le Fils a dit, « Moi, je viens pour faire ta volonté. » Est-ce que ce n'est pas finalement ce que nous aussi nous avons dit si nous l'avons accepté dans notre cœur. Le jour où nous avons cru, nous avons dit, « Seigneur, je viens, maintenant je cède mon cœur pour faire toute ta volonté. Je viens faire ta volonté. » Croire en lui, c'est lui abandonner sa vie. Mais ensuite, la vie se poursuit sur la terre. Les tentations arrivent, les épreuves arrivent, les difficultés arrivent. Il y a tout ça qui nous assaille, les chutes arrive. Et nous qui avions dit, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, soudain on s'aperçoit qu'on a le pied dans la porte et que ça peut rentrer comme ça. Et finalement, on perd la liberté que Dieu veut nous donner, qu'il nous donne. Et il faut qu'on continue à suivre l'exemple. Jésus a dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il est descendu sur terre et arrivé au jour de l'épreuve, qu'est-ce qu'il a dit ? Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a cédé sa volonté. Et nous, Dieu veut qu'on s'identifie au Seigneur et qu'on fasse comme lui. Et qu'on dise, Seigneur, pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il n'y a pas d'autre issue possible. Pour vivre, il faut mourir. Il faut renoncer à toutes nos petites désobéissances, nos petites indépendances. Notre problème, c'est que souvent, nous nous recherchons nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est nos péchés, nos désobéissances ? C'est une recherche de soi, en fait. Hein. Au lieu de nous concentrer sur le Seigneur, on se dit un peu moi, quand même. Hein. Et on se concentre sur soi. Et on nourrit sa chair au lieu de nourrir l'esprit. Mais pour être vraiment libre, il faut renoncer à soi. Il faut mourir. Et puis, une fois que nous sommes en croix, ou si nous sommes en croix, alors il faut y demeurer. Il faut y rester. Et le Seigneur nous a enseigné à prier. Et dans la prière qu'il nous a dit de faire, ou l'exemple de prière, il a dit... Dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, dans mon cœur, comme au ciel. Et on doit le prier chaque jour, sans cesse, parce que le diable essaye toujours de chercher la faille. Il est comme un lion rugissant. Il veut nous faire descendre de cette croix. il veut nous faire descendre de la croix. Soit il veut nous empêcher d'y monter, soit il veut nous en faire descendre. Alors, eh bien, il faut qu'on prie, Seigneur, qu'aujourd'hui encore, non pas ma volonté, mais ta volonté, que ta volonté règne dans ma vie, dans mon cœur, dans mes décisions, dans mes pensées. Veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a deux grandes choses que Dieu attend de moi et de vous. La foi et l'obéissance. Et c'est dans cet ordre-là seulement. Il faut d'abord croire et ensuite obéir. Si vous essayez d'obéir avant d'avoir cru, vous allez produire quelque chose qui sera entaché par votre péché, par votre cœur. Croire d'abord, puis ensuite se consacrer au Seigneur. Obéir. Obéir, c'est un mot qui semble difficile. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis toujours, en tout cas, quand j'étais jeune, ce mot « obéir », ce n'était pas un mot que j'aimais. Et je crois que l'homme naturel n'aime pas ce mot « obéir ». Non, c'est un mot qui dérange, parce que la chair n'aime pas obéir. Le cœur mauvais n'aime pas obéir. On ne veut pas lâcher ses petits plaisirs, on ne veut pas lâcher sa volonté. Mais quand on s'identifie avec Jésus-Christ et que par la foi, on monte avec lui en croix, parce que c'est par la foi, quand on se place avec lui, je vais l'aider. Quand on meurt avec Christ et qu'on est avec lui sur la croix, alors, et seulement quand on y est, le mot « obéir » prend un sens différent. Et soudain, on découvre, mais obéir, c'est le meilleur, finalement. Parce que c'est là la liberté, c'est là le bonheur, c'est là la vraie vie. Et obéir, finalement, mais c'est ma joie, c'est mon bonheur. Obéir à Jésus-Christ, mais c'est le ciel sur la terre. Personne n'est malheureux d'obéir parfaitement à Jésus-Christ. Personne. Quand on obéit imparfaitement, alors là, on est malheureux. Mais on est malheureux parce que le péché est toujours là. Mais quand on obéit parfaitement, alors on est heureux, on est dans la joie. Joyeux parce que libre, joyeux parce que rempli, joyeux parce que en communion avec le Seigneur. Si vous êtes enfant de Dieu ce matin, si vous ne l'êtes pas, croyez. Faites une prière au Seigneur. Cédez-lui votre cœur. Goûtez à la joie d'être enfant de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu ce matin, alors ce désir que le psalmiste a écrit est dans votre cœur. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Ne résistez pas. Consacrez-vous ou reconsacrez-vous ce matin. On va avoir un moment de prière.